Bien, écoutez, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Philippiens pour lire ensemble quelques versets qui se trouvent au chapitre 2. Verrons versets 12 à 16. Alors, je vais vous en faire la lecture. Donc, Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alors voilà, dans ce texte, eh bien, j'ai retenu le sujet suivant, une vie qui compte. Vous savez, c'est quelque chose d'avoir une vie qui compte. On n'a qu'une vie, on n'en a pas deux, hein. Je sais qu'aujourd'hui, avec le jeu vidéo, si on rate un coup, on peut recommencer, quoi, hein. Mais nous, on n'a qu'une vie à vivre. L'autre jour, j'ai entendu un frère qui disait ceci, il disait, au soir de ma vie, je ne pense pas que je me dirais, t'as pas gagné suffisamment d'argent. Mais par contre, je me dirais plutôt, t'as peut-être pas servi le Seigneur comme tu devrais le faire, tu aurais dû le faire. Et c'est vrai que, quand nous sommes là, tous valides, autant que nous sommes, avec notre force, notre énergie, nous avons toujours des rêves, des grands sujets de vie. Mais au soir de notre vie, est-ce que nous serons satisfaits, eh bien, d'avoir des châteaux et des comptes en banque bien remplis? Est-ce que c'est ça qui va vraiment nous apaiser au soir de notre vie, nous dire, ben, quand je regarde ma vie, c'est vraiment une vie qui a compté. Pas forcément. C'est pas le gain, je dirais, de cette terre qui témoigne d'une vie qui compte. C'est tout ce que nous engrangeons dans le ciel. Le Seigneur a dit, faites-vous un trésor dans le ciel, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas, et là où le voleur ne perce pas. Une vie qui compte, c'est un bon compte dans la bonne céleste. C'est ça une vie qui compte. Et je vous pose la question, est-ce que vous marchez avec cette pensée? On a tous envie de réussir notre vie. Je ne pense pas parmi ses enfants, il y en a un qui a envie de rater sa vie, toi? Non, c'est le plus. Voilà, mais même plus grand, personne n'a envie de rater sa vie, de la gâcher. Et pourtant, on voit tant de personnes qui gâchent leur vie. Et la gâcher, c'est pas, je dirais, avoir souffert tous les maux de la vie ou avoir pris toutes les pires directions de la vie. Finalement, gâcher sa vie, c'est ne pas être engagé dans les voies que finalement Dieu avait en réserve pour nous. Alors, une vie qui compte. Eh bien, une vie qui compte, c'est une vie qui répond à des attentes. Vous savez qu'on a tous des attentes dans la vie les uns des autres. Dans un couple, par exemple, eh bien, l'autre compte sur vous. Hein, c'est ça. Et réciproquement, hein, chacun compte sur l'autre, et c'est normal. Dans une famille, les enfants comptent sur leurs parents, mais finalement, les parents comptent aussi sur leurs enfants. Tout est réflexif. Dans le travail, ben, votre patron, il compte sur vous. Et puis, à la fin du mois, vous comptez sur votre patron. Aussi, hein. dans l'Église. Ah, les chrétiens, ils ont des attentes. Ils comptent sur le pasteur, sur l'équipe pastorale, ils comptent sur la chorale, ils comptent sur l'école du dimanche, ils comptent pour qu'on s'occupe de leurs enfants, ils comptent, eh bien, trouver une bonne ambiance à l'église. Mais ils ont des attentes, l'église a des attentes vis-à-vis d'eux, de chacun d'entre nous. Et ça, parfois, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, une vie qui compte, c'est une vie qui répond à deux attentes. Et plus précisément, qui répond aux attentes de Jésus-Christ. Vous êtes donné au Seigneur parce que vous dites, mais moi, je compte sur le Seigneur, quoi. Ben oui, ben, le Seigneur était dit, je compte sur toi, maintenant. Voilà, c'est ça. Le Seigneur aussi compte sur nous. Rendez-vous compte que, ben, quand il est monté au ciel, il a laissé son œuvre entre les mains des hommes, et il veut vraiment agir au travers d'eux. Alors voilà, j'ai relevé dans notre texte quatre pensées pour préciser bien les tenants et les aboutissants d'une vie qui compte pour la gloire de Christ. Regardez, l'apôtre Paul il dit que si nous répondons à ses attentes, il pourra se glorifier un jour de ne pas avoir travaillé en vain. Hein, c'est vraiment c'est merveilleux. Savoir qu'il y a eu vraiment des hommes là, qui ont eu des vies qui comptent derrière. Alors la première chose que j'aimerais relever, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous réponde à un appel de disciple pour avoir une vie qui compte. Il faut répondre à un appel. Il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas appelé. On est tous appelés. Et Seigneur dit ici dans ce texte, mettez en œuvre votre salut. Il ne dit pas, pasteur, mets-toi au boulot. Non, il dit à tous les chrétiens, mettez en œuvre votre salut. Et quand il parle de cela, il ne fait pas un appel au salut. Parce qu'il s'adresse à des chrétiens qui ont déjà confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont déjà sauvés, ils ont même déjà obéi à la voix de l'Évangile. D'ailleurs, même le texte les dit, vous avez déjà toujours obéi, vous avez obéi à l'Évangile. Mettez en œuvre. Bref, vous avez reçu, pratiqué, utilisé ce que vous avez reçu. Vous avez reçu une belle voiture, reste plus qu'à s'asseoir dedans et démarrer le moteur. Une belle voiture qui reste garage. Sert à quoi? Vous savez, parfois, nous autres chrétiens, nous sommes comme propriétaires d'une belle mine d'or, mais qui est inexploitée. Ou même tout simplement d'un beau terrain. Je me souviens de cette anecdote d'un père qui avait des fils qui étaient paresseux. Et au soir de sa vie, ce père qui était agriculteur, il leur a dit, écoutez mes garçons, je n'ai pas grand chose comme héritage à vous donner. Mais je puis vous dire que j'ai laissé un trésor. Et ce trésor, il est dans le champ. Cherchez le bien et vous le trouverez. Alors, bien, les fils, oui, voilà. Papa, il nous a laissé un trésor, mais là, on va aller chercher. Alors, ils ont commencé à tourner des coins de terre, et puis, chemin faisant, en retournant, ils ont dit, tiens, on pourrait se donner des choses ici, et puis, ils ont retourné à droite, à gauche, et c'est pas là, et puis, finalement, en retournant la terre, et bien, ils l'ont semé, et puis, finalement, quelques années plus tard, il y en a un qui a fait six, ah, voilà le trésor! C'est qu'il fallait retourner la terre. Il n'y a pas une cagnotte, mais ce trésor, c'était en exploitant cette terre, eh bien, on avait pouvoir devenir riche. Ils avaient effectivement un trésor, mais s'ils ne retournaient pas la terre, cette terre, eh bien, ne leur a jamais donné un centime pour vivre. Bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Le Seigneur nous a laissé un champ à exploiter et parfois, nous sommes bien paresseux pour le faire. Il faut reconnaître. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Il y a un homme qui a reçu 5 talents, puis il les a fait valoir. Voilà une vie qui compte. Il y en a un qui en a reçu 2, il les a fait valoir. Voilà une vie qui compte. Puis il y en a un qui a reçu un seul talent, ben il ne l'a pas exploité. Mais ça, c'est une vie qui est perdue. Une vie qui est gâchée. Alors, ne soyons pas de ceux qui laissent tous les trésors que le Seigneur leur a donnés inexploités. Il faut mettre en œuvre son salut. Ça veut dire servir le Seigneur. Est-ce que nous avons une pensée, de serviteur de Dieu? Vous savez que mettre en œuvre son salut, servir le Seigneur, c'est un signe de maturité spirituelle. Vous savez que le propre de l'enfant, c'est d'être centré sur lui-même. Et moi, je veux, et moi j'aime bien ça, et moi j'aime pas ça, et puis il faut que maman elle fasse ceci, et puis il faut que maman elle fasse cela. L'enfant, quand il est tout jeune, il ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les vies, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ma mère, mon père, et il ne se pose pas, elle vient petit à petit. C'est-à-dire que plus il prend de la maturité, plus la perspective d'être serviteur, eh bien, entre dans son cœur. Non, un petit enfant, il veut qu'on soit à ses petits soins. Et parfois, des petits caprices, j'en ai quelques-uns, tout ça, et voilà, et parfois, ils sont centrés sur eux-mêmes. Et nous sommes de la même nature. En Christ, nous trouvons ces deux types de comportements. Nous trouvons les enfants qui veulent qu'on soit à leurs petits soins. Et puis, nous trouvons des adultes qui sont à leurs petits soins. Alors, c'est normal d'être comme un enfant. Vous savez, quand on vient à l'église et qu'on découvre la parole de Dieu, alors on écoute la parole, on se baigne, on découvre, on apprend, on s'assoit, on voit comment les autres font. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours tout de suite dans la peau d'un serviteur, mais on a peine de lire. Tout enfant, normal, est appelé à devenir un adulte. Alors, mettez en œuvre votre salut, dit la parole de Dieu. C'est un signe de maturité spirituelle. Mettez en œuvre votre salut, le Seigneur dit dans ce texte, avec crainte et tremblement. Vous savez pourquoi il dit avec crainte et tremblement? Mais ce n'est pas parce qu'il va nous rejeter, nous allons aller en enfer si nous ne le faisons pas. Mais en tout cas, il le dit, c'est parce que nous avons des comptes à lui rendre. Vous savez que, regardez avec moi dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 10. Il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Est-ce que nous sommes prêts? Voilà. Est-ce que nous sommes prêts à comparaître devant le tribunal de Christ? Vous savez, être un tribunal, pas comparaître devant le tribunal de Christ, c'est pas comme un avocat. Hein, c'est peut-être comme accusé. Hein, quand on passe devant un tribunal. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Vous savez, le retour de Christ est proche. Si vraiment il y a un temps pour servir le Seigneur, c'est bien celui-ci. Rendez-vous compte que nous sommes en 2007. Nous trouvons exactement 110 ans après, même très exactement 110 ans, au mois près, après le congrès de Bâle, qui a lancé le mouvement sionisme. Le mouvement sionisme, c'est quand un homme qui s'appelait Théodore Herzl a appelé les Juifs à retourner en Israël et il leur a dit, dans 5 ans peut-être, mais dans 50 ans, c'est certain, il y aura à nouveau un État d'Israël. Cet homme s'appelait Théodore Herzl et il appelait, au règne messianique. Ça fait 110 ans que cet appel a été lancé. Ça fait 110 ans que le monde est en ébullition à cause de cette question-là. Et cette question-là, c'est celle qui prépare à l'avènement du Seigneur, du retour de Christ. Ça fait 60 ans, vous rendez-vous compte, eh bien, que la nation d'Israël est à nouveau une nation. Ça fait 40 ans cette année que Jérusalem est à nouveau sous l'autorité, eh bien, des Juifs. Vous rendez-vous compte, la ville de Jérusalem. Et tout ça, ce sont des signes. Le Seigneur a dit que c'est quand ces choses ne passeront point que le Seigneur le reviendra. On parlait des bouleversements géologiques, climatologiques, géopolitiques, et j'en passe, et des meilleurs. Mais vous savez, on est dans les temps de la fin. S'il faut servir le Seigneur, je veux dire, ne tardez pas trop. Eh bien oui. Ah ben si j'avais dit, ben oui, vous savez. Vous savez, on prêche le retour de Christ. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Et notre témoignage prend du sens, comme celui de Noé qui a prêché 120 ans. C'est pas du tout le résultat qu'il voulait, mais 120 ans avant le déluge, avant une nouvelle époque, il était là, il plaidait. Mettez en œuvre votre salut, dit l'apôtre Paul. Et le reste, il dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, puis il ajoute, non seulement comme en ma présence. Parce que vous savez, Paul, quand il était là, parce que Paul est là, ça va être super, l'église va être super dynamique, parce que Paul est là, et il est là, tout le monde est là, alors tout le monde vient au culte, parce que Paul est là. Alors là, quand Paul est là, on va rater ça, et puis Paul, ben, ça va la dimanche. Oh, ben, moi non plus, d'ailleurs. Et puis, vous savez, ça veut dire quoi ce texte? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens. Ils sont prêts à avancer quand on les pousse. Et quand on les pousse plus, ben ils n'avancent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source de leur foi n'est pas en Christ. Elle est dans l'ombre, tout simplement. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Ben ils vont dire que c'est le Seigneur. Mais la réalité, ce n'est pas le Seigneur. C'est simplement parce que il y a toujours quelqu'un qui les pousse, allez viens, allez à l'église, allez viens, lis la Bible. Et si arrêtez de lire, je viens. Vous savez, c'est comme une voiture. Une voiture, c'est une automobile. Ça veut dire qu'elle avance par elle-même. Hein? Et sinon, si ce n'est pas une automobile, c'est une charrette. Pour la tirer, pour la pousser. Bien, il y a des chrétiens, ce sont des auto-chrétiens. C'est-à-dire qu'ils avancent quand même, ils lisent leur Bible, ils prient le Seigneur, et ils avancent, ils s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Et ils disent, qu'est-ce qui vous fait avancer? Je prie, je mange avec Dieu, j'aime le Seigneur, et puis on avance. Et puis, qu'est-ce qui vous fait avancer? Alors, il y a toujours quelqu'un qui me pousse, puis dès qu'il arrête de me bouger, ben voilà, il n'y a plus personne. Mais peut-être c'est comme ça. Et peut-être que si vous regardez votre vie, vous dites, tiens, mais si c'est vrai qu'un tel ne tire pas, et il y a un coup de fil, il arrive bien, je ne sais pas. Et peut-être que les enfants aussi, si papa ou maman n'étaient pas là pour me dire, allez bien, je n'irai pas de moi-même. Est-ce que nous sommes des chrétiens automobiles ou charrettes? Mettre un âne pour le tirer. Voilà. Alors, mettez en œuvre votre salut. C'est ça un appel de Bissi. Voilà ce que l'apôtre Paul nous laisse comprendre ici. Alors, pour avoir une vie qui compte, il faut répondre à cet appel. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à cet appel? Alors, vous dites dans votre cœur, moi je veux bien, mais regardez ce que vous dit ce texte. Il nous dit quelque chose de vraiment merveilleux au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors quand on veut répondre à cet appel de disciples, eh bien Dieu nous accorde une puissance inconnue jusque-là pour répondre à cet appel. C'est que Dieu ne nous laisse pas sans force pour le faire, il nous communique sa puissance. Vous savez que le problème de notre vie, c'est pas qu'il nous manque de la connaissance pour servir le Seigneur. Ce qu'il nous manque, c'est une prise de conscience. Vraiment une prise de conscience. Voilà ce qui nous manque. Voilà, on a entendu plein de choses, mais tout ça, ne... vous pourriez être la veille de l'enlèvement de l'Église.
Oui, c'est vrai, il va revenir bientôt, d'ailleurs, bien considéré, je me rends compte que c'est vraiment très proche.
Vous pourriez être déjà un pied dans la tombe, voilà, et
ouais, bientôt mourir, voilà,
ça ne change rien. Par contre, vous pourriez être dans la misère la plus totale,
et vous savez, il est écrit, hein,
quand tu pilerais l'insensé dans sa folie, même sa folie ne se séparerait pas de lui. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, vous pouvez les détruire, les passer dessus de toutes vos forces.
Ben, ça ne sera rien du tout.
Rien du tout. Il leur arrive 10 épreuves, 20 épreuves, 50 épreuves. Donc, il leur arriverait ne serait-ce qu'une carte avec une plume. Ce serait tout remué dans leur front, là. Oh là là, je vais refaire cette enseigne. Les autres, ça pile un mur, il n'y a rien qui répond. Ils savent tout. Il manque une prise de conscience. Une prise de conscience, voilà ce qui manque. Et la prise de conscience, c'est la suivante. Est-ce que notre volonté, aujourd'hui même, s'accorde avec la volonté de Dieu? C'est ça la prise de conscience que nous avons. Est-ce que je fais aujourd'hui ce que Dieu veut que je fasse? Si vous dites non, ben changez tout de suite. C'est ça une prise de conscience. C'est-à-dire que le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Dieu a mis par son Esprit Saint sa volonté dans ma vie. Je me souviens de mes parents. Ils ont été convertis 4 ans avant moi. Et ils étaient allés à l'église et ils parlaient de tous les miracles qu'ils connaissaient et qu'ils faisaient tout ce que Dieu faisait dans leur vie. Et qu'ils lisaient la Bible et qu'ils allaient à l'église. Et franchement, j'étais jamais très enthousiaste à l'idée de miracles. Quand je discute avec eux, je dis ouais, pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais le jour où je me suis converti, j'avais soin d'aller à l'église. J'avais soin de lire la Bible. J'avais envie de chanter l'évangile. Avec mon père, il était complètement fou. On chantait même dans les rues, dans les bus et tout ça. Alors qu'avant, on n'aurait jamais osé ouvrir la bouche pour parler du Seigneur. Mais on en faisait plus qu'on en avait fait avant. Et la conversion, vous savez, c'est le moment où Dieu met sa volonté dans votre vie. C'est ça, cette puissance. On répond à un appel et Dieu met sa volonté en nous. Vous avez remarqué ça dans votre vie. Tout d'un coup, vous découvrez de nouveaux sentiments. Mais je vous pose cette question. Où sont ces nouveaux sentiments en Jésus-Christ? Parfois, tout cela est fade. Regardez dans notre texte, il est écrit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Le mot vouloir ici, c'est prendre plaisir. Et le faire, c'est le mot énergo qui a donné énergie. L'énergie pour faire ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît, tout d'un coup, c'est ce qui plaît à Dieu. Vous savez, vous recevez quand tout d'un coup votre cœur désire vraiment entrer dans le plan de Dieu, mettre en œuvre ce que Dieu vous a déjà donné, vraiment, vous allez vous réjouir. Mais réjouir d'une manière inattendu, parce que vous allez être conforme à la volonté de Dieu. Alors, si ces choses ne sont pas en nous, c'est que la source est bouchée. Vous vous souvenez de ce film, qui est aussi un livre d'ailleurs, qui s'appelle Manon des sources, hein, vous l'avez vu cela, un village qui était bien arrosé par une petite source qui coulait jusqu'au village, et puis tout le monde est content, chacun pouvait siroter son cassis, ou alors, c'est dans le sud, alors voilà, répandre de l'eau dans ses jardins, avoir de l'eau pour faire sa cuisine, tout à coup la source est tarie. Et alors là, quand la source est tarie, c'est le branle-bas de combat dans tout le village. Et cette source était un petit filet d'eau finalement qui arrivait continuellement et on n'y prenait pas garde, mais ce petit filet d'eau c'était la vie. La vie continuelle, la vie perpétuelle, vous savez, j'ai déjà passé près d'une source d'eau là, dans un village, et ce bruit, ça fait ce coulement, la joie perpétuelle. Mais vous savez, c'est la vie qui arrive. Et parfois, bien, il y a un bouchon dans la source, et il n'y a plus rien qui vient. Et c'est peut-être là où nous en sommes, dans notre vie ensemble. Et regardez le bouchon, il est au verset suivant. Le bouchon, c'est « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Le bouchon, c'est notre état d'esprit. Je dirais même notre mauvais état d'esprit. C'est ça le bouchon. Il nous faut véritablement un nouvel état d'esprit pour servir le Seigneur. Voilà ce qui obstrue, eh bien, la source que Dieu a placée en nous. Quand on fait les choses avec murmure et hésitation, ben je garantis qu'on n'avance pas. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas mettre en œuvre tous les projets que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Vous savez, les hésitations, ce sont les raisonnements intérieurs. Et si je fais ci, je vais faire cela. Et si je le donne par là, je ne vais pas me donner ceci. Si je ne vais pas, forcément, je n'irai pas à gauche. Ah, mais c'est là, tiens, maintenant, là, alors je ne vais nulle part. Voilà. Mais c'est comme ça. Et beaucoup de gens sont comme ça dans leur vie. Ça, c'est les raisonnements intérieurs, les hésitations. Oh mon Dieu. Et on est comme ça, on passe par plein. Mais les chrétiens passent leur vie comme cela. Oui, je suis un petit peu engagé, mais je suis vite reculé parce que ça pourrait prendre ma vie. Et... Vous savez, on profite de rien, c'est comme le mariage. Quand on veut épouser toutes les femmes, eh bien, on n'en épouse aucune. Quoi. Le mariage, c'est choisir une femme et on bâtit sa vie. Avec. Et regardez, les murmures, vous savez, c'est le mécontentement intérieur. Vous savez, les débats secrets, une vie cachée qui s'oppose constamment à la volonté de Dieu. Vous savez, ce sont les péchés secrets qui détruisent la vie de Dieu. C'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu fait tout à partir de l'invisible. Tout procède avec Dieu à partir de l'invisible. Et dans notre vie, on peut tout gâcher sans que ça se voit. Sans que ça se voit. Hein. On est toujours impeccable, voilà, bien endimanché, une vie qui en apparence est très bien, mais en fait, tout est gâché dans notre vie à cause de ce qui se passe à l'intérieur. Des murmures, vous savez, c'est toutes ces gesticulations de la pensée qui est là, qui ne s'entend pas. Mais qui gâche tout. Quand on rumine de la colère, quand on rumine de la jalousie, quand on rumine de l'amertume, quand on rumine de la révolte, quand on rumine de la concupiscence, quand on rumine de la cupidité, quand on rumine de l'envie, quand on rumine de l'orgueil, tout ça, ça gâche tout. Franchement, ça gâche tout. Et on voit les autres qui réussissent leur vie, et puis nous on passe à côté. Voilà ce qui a pris, c'est le Saint-Esprit. Voilà que le vouloir et le faire n'y sont plus. Regardez les enfants d'Israël, ils ont passé 40 ans à ruminer, à hésiter, à murmurer, ils n'ont profité de rien. Et vous savez, Dieu est patient. Dieu est patient, et si ça doit durer toute votre vie, et que vous ne devez profiter de rien, eh ben, il sera patient. Il ira jusqu'au bout. Et puis jusqu'au bout, ben, vous profiterez de rien. C'est incroyable, ça. Mais Dieu, tu vas par là. Dieu ne se laisse pas fléchir par des caprices. Vous savez, de toute façon, on pense que... Non, on ne se laisse jamais fléchir par des caprices. Jamais par le péché de l'homme. Regardez le péché d'Acan, c'est encore aussi, c'est pareil, c'est cette convoitise intérieure, tout gâché. Ça s'est pas vu, mais tout a été gâché. Pensez un instant, je discutais encore ces derniers jours avec une sœur et on parlait de Léa. Léa, la femme de Jacob. Elle a eu 4 enfants. Alors, connaissez-vous le nom du premier? Comment s'appelle? Elle a appelé comme ça, elle a dit Ruben, parce que Roé, ça veut dire voir. Et elle a dit, je vais l'appeler Ruben parce que Dieu a vu que mon mari ne m'aimait pas. Et elle gémissait. Elle a un deuxième, elle l'a appelé. Pardon?
Simeon.
Simeon, elle veut dire le chemin, veut dire écouter, entendre. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Voilà, il murmurait encore. Puis après, elle en a eu un troisième. Comment l'appeler? Lévi, ce que ça veut dire s'attacher à. Et maintenant, elle dit, maintenant, alors j'espère bien que mon mari va s'attacher à moi. Hein, voilà. Et puis, à chaque fois, ça ratait. Et puis, elle est tombée en grand vin, puis sous là, elle changeait l'état d'esprit. Et vous savez comment elle l'appelait, Gabriel?
Judas.
Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Judas? Ça veut dire, elle a appelé Judas parce qu'elle a dit, maintenant, je louerai l'Éternel. Elle était en train de gémir à côté, parce que je veux, de là. Et tout d'un coup, elle a cessé de gémir. Dans sa grossesse, elle a loué l'Éternel. Oh, mais attends, je me réjouis dans le Seigneur. Elle est marre, non. Je me réjouis avec mon Dieu. Et elle a eu un fils qui s'appelait Judas. Et qui c'est qui est sorti d'appeler Judas? Comment il s'appelle? Qui ça? Le Seigneur Jésus. Tout d'un coup, un changement d'état d'esprit vous donne un fils qui changera toute chose. Judas, et c'est de la tribu de Judas, avec son sorti David, et avec David, il y a les rois d'Israël, et avec les rois d'Israël, le grand roi d'Israël, c'est-à-dire savoir le Seigneur Jésus. Un changement d'état d'esprit vous fait entrer dans la volonté de Dieu, vous donne tout d'un coup une âme qui prend plaisir dans les œuvres de l'Éternel, et tout change dans votre vie. Est-ce que nous n'avons pas un bouchon à faire sauter dans notre cœur? Je vous pose la question. Est-ce que, là, vous avez déjà eu trois fils, hein, Ruben, parce que, tu vois, Seigneur, ça va pas, hein. Seigneur, tu m'entends, là, maintenant, hein, tu vas pas quelque chose pour moi. Et si on changeait complètement d'état d'esprit, plutôt que de gémir, murmurer, de dire enfin, Seigneur, je dirais comme David, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes adversaires, de mes ennemis. Voilà ce dont nous avons vraiment besoin. Louer le Seigneur pour tout d'un coup, eh bien, saisir la puissance d'en haut que Dieu veut mettre vraiment en nous pour que nous puissions avoir une vie qui compte. Et vie qui compte, eh bien, nous finissons notre texte. Eh bien, c'est vraiment un témoignage authentique. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu. Posez-vous la question. Est-ce que vous brillez pour les autres? On peut briller pour soi.
On se donne l'impression que...
Mais est-ce que vous pensez bien que vous brillez pour ceux qui vous entourent? C'est-à-dire que vous irradiez, je veux dire, vous apportez quelque chose, je veux dire, vous pensez à amener quelque chose, ou alors, voilà, toujours centré sur vous-même. Regardez, notre texte dit de briller comme des enfants, voilà, qui sont irrépréhensibles, purs et irréprochables. Le terme ici, ça veut dire littéralement, il y a un préfixe privatif à chaque fois dans ces mots. L'un veut dire sans défaut, sans mélange, sans reproche. C'est ça. Le témoignage, c'est pas ce que vous pensez de vous, mais c'est ce que les autres pensent de vous. C'est ça la différence. Et sans défaut, ça veut dire les gens ne sont pas en train de regarder toutes les mouches mortes qu'il y a dans votre vie. C'est ça. Pur, ça veut dire pas une vie diluée, vous savez, avec toutes les choses néfastes de ce monde. Oh, si seulement il n'y avait pas ça et tout cela, sa vie pourrait être aussi belle. Là, c'est cette tâche-là qui est toujours là dans sa vie. Irrépréhensible, ça veut dire sans reproche. Ça veut dire, n'est pas toujours obligé de pointer le doigt dessus. Est-ce qu'on est toujours obligé de pointer le doigt sur notre vie pour dire, mais enfin, tant bon que ce seras-tu? C'est ça, porter, briller, hein, c'est ce à quoi nous sommes appelés dans l'Évangile. Briller parce que Jésus-Christ brille. Il est le soleil de justice. Et nous sommes la lune. Nous brillons si nous sommes en contact, eh bien, du soleil. Et nous témoignons ainsi de l'existence de notre Seigneur. Dans Daniel, chapitre 12, verset 3, il y a cette merveilleuse promesse qui nous dit ceci. À ceux qui auront brillé sur la terre, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous savez, c'est ça, une vie qui compte, c'est d'être une star. Une star, c'est une étoile, hein, pas une étoile filante, mais une étoile qui brillera pour l'éternité dans la gloire. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et pour briller dans la gloire, il faut d'abord bien que nous brillions de l'éclat de notre Seigneur Jésus dans son idée. La vérité, c'est ça. Est-ce que nous le souhaitons? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons une vie qui compte à la gloire de Jésus-Christ? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Répondre à un appel. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à un appel? Mettez en œuvre votre salut. Ne laissez pas le trésor que Dieu a placé en vous inexploité, gâché, incultivé, voilà, stérile, pour rien. Saisissez la puissance de Dieu. Faites cesser les murmures et tous ces bouchons qui obstruent la vie que Dieu veut faire couler en nous. Et qui nous donne à tous, et bien ainsi, de briller pleinement de tout l'éclat du ciel et de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, peut-être que nous pourrions juste nous incliner dans la prière. Et tenez, si certains veulent confesser, dire quelque chose au Seigneur, lui dire, moi j'ai besoin de répondre à un appel, voilà, saisir la vie d'en haut, à faire cesser les murmures et les hésitations dans mon cœur, cette occasion de le dire au Seigneur Jésus, d'être vraiment renouvelé, repartir de ce temps ainsi avec vraiment une vie qui brille, parce qu'on s'est placé sous le soleil de justice, sous Jésus-Christ, hein, qui est mort pour nous. Alors, inclinons-nous. Le Seigneur notre Dieu, tu nous connais, toi qui nous as fait, Père éternel. Tu sais, tu connais toute notre vie, tu connais la vie cachée qu'il y a en nous. Tu connais toutes ces langueurs qui traînent dans nos âmes, qui parfois tarissent toute vie spirituelle dans nos âmes, alors que nous sommes appelés à briller, Seigneur. À briller de mille feux, parce que tu es vraiment un grand Dieu qui est venu faire ta demeure, non pas dans notre maison, mais dans notre vie. Tu as fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Et qui sommes-nous pour ces choses? Qui sommes-nous pour cela? Pour être la maison de Dieu en esprit. Oh Seigneur, que notre corps, que notre être ne soit pas un temple désaffecté, abandonné, ruiné, délabré, comme il a pu l'être le temple d'Israël un temps, mais au contraire que la gloire du Seigneur, eh bien, y rayonne pleinement. Ô Seigneur, combien je te prie pour que tu fasses cesser, Seigneur, les murmures de nos cœurs. Tu vois combien, Seigneur, nous avons toujours de bonnes raisons de gémir dans nos âmes, Seigneur. Ô pardonne, Seigneur, purifie-nous. Lave-nous de cette iniquité, Seigneur, et donne-nous de regarder à toi, de nous écrier comme Léa, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et que notre âme vive ainsi, joyeusement devant ta face. Quand bien même nous n'avons pas tout ce que le monde peut proposer, Seigneur, nous t'avons toi, le seul Dieu juste qui sert. Et nous avons la gloire éternelle comme héritage. Donne-nous cette maturité aussi pour, nous rendre utiles dans ton œuvre. Et non pas regarder les autres œuvrer, Seigneur, mais donne-nous de nous impliquer, d'être responsables, Seigneur, de sorte que ton évangile prospère aussi au travers de nos vies. Ô Père, nous te prions de nous donner une vie qui compte, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen.